Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer notre podcast par un tour d'horizon des marchés, avec notamment un petit point d'attention sur le pétrole et les conséquences de la guerre en Iran sur les pays d'Asie. Puis nous commenterons ensuite la performance du fonds, passant en revue les meilleurs et les moins bons contributeurs de notre portefeuille sur le mois de février, et nous finirons par les principaux mouvements sur ce même mois. Avant de laisser la parole à Charles et Wojciech, les petites recommandations habituelles. Ce podcast et l'ensemble de son contenu est le reflet de notre sentiment sur les marchés financiers et est diffusé à titre exclusivement informatif. En cela, il ne constitue en aucun cas une offre ou un conseil pour acheter ou vendre un instrument financier. Voilà, maintenant je vais vous laisser la parole. Charles Wojciech, et bonjour. Et Wojciech, je te laisse parler un petit peu des marchés.
Oui, bonjour. En effet, il y a eu pas mal de choses sur les marchés, n'est-ce pas? Sur ces dernières semaines en particulier. Peut-être je vais commencer par les deux gros morceaux de l'indice, hein, pas tellement pour nous, mais pour notre fonds, mais de l'indice à Corée, qui a quand même montrer une volatilité exceptionnelle, parfois des mouvements que nous n'avons pas vus depuis des dizaines d'années sur des mouvements journaliers, ce qui très probablement indique que le marché est désormais tiré par les mains faibles, les étrangers qui sont un peu moins présents, et ce sont surtout les locaux pardon, qui achètent ou qui spéculent, qui jouent massivement sur le marché coréen aujourd'hui. Globalement, le marché coréen est plutôt tiré par juste quelques entreprises, liées bien évidemment à l'industrie des mémoires et des semi-conducteurs. Et ces entreprises, effectivement, ont démontré une croissance assez extraordinaire des bénéfices, ces derniers temps. Mais cette croissance, il ne faut pas oublier, est pour beaucoup due à une hausse extraordinaire des prix des mémoires. Ces derniers mois. Le prix des mémoires que j'ai ici devant moi en charte, je peux pas montrer, mais qui ont multiplié par 5 juste en quelques mois. Donc c'est ce qu'on appelle un hockey stick actuellement sur les prix des mémoires. Et en général, ce type de charte en hockey stick ne se termine pas bien. Après, on a eu le Taïwan où une remarque peut-être intéressante, c'est que les étrangers détiennent aujourd'hui 25% du marché. C'est un record historique. Il y a 10 ans, c'était 10% à peine. Et seuls les investisseurs américains détiennent presque 1 trillion de dollars en actions taïwanaises. Presque 1 trillion, 0,7-0,8 trillions d'actions taïwanaises. Donc on peut s'attendre effectivement, on peut s'imaginer juste ce qui se passera éventuellement si potentiellement les Américains changent de point de vue sur toute cette histoire de l'IA, de la technologie. Et puis un dernier petit point sur on a mentionné l'IA et effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans ce segment me fait penser un tout petit peu à la bulle immobilière au Japon que nous avons connue dans les années 80, où il y a eu effectivement cette espèce d'écosystème d'économie circulaire un peu malsaine, où les banques, il y a énormément de participations croisées entre les banques, les sociétés immobilières, les sociétés de construction qui se sont mutuellement financées, prêtées de l'argent dans tous les sens, et ce qui a conduit à cette anomalie qui est devenue presque anecdotique aujourd'hui, sachant que effectivement le terrain autour du palais de Tokyo, qui fait, il me semble, juste 3 km carrés de superficie, valait plus que l'ensemble de l'immobilier de la Californie. Et donc voilà l'illustration à quoi peut conduire éventuellement une économie circulaire, comme on le voit aujourd'hui autour de l'IA dans notre esprit. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train de se passer dans ce segment-là. Et ici, nous ne mettons pas du tout en cause le potentiel probablement très intéressant de l'IA à long terme. Enfin, le point assez important, pas le moindre, ne fait pas tellement partie de l'update, la mise à jour mensuelle du portefeuille, mais quand même ce qui se passe sur le pétrole ne peut pas être ignoré. Et la hausse du pétrole est globalement considérée comme un grand point négatif pour l'Asie. C'est clair que la région est un importateur net du pétrole et du gaz. Mais la situation diverge tout de même beaucoup selon les pays. Il y a des différences notables dans les sources d'énergie dans la région, encore une fois entre les pays, mais aussi dans les politiques nationales des subventions des carburants, dans les capacités locales de raffinage, dans les proportions qui sont importées, exportées, etc. Donc c'est une équation très très complexe et franchement nous n'allons pas essayer de résoudre cette équation ici aujourd'hui. Mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est que la dépendance aux produits pétroliers se limite la plupart du temps au transport, puisque de nombreux pays de la région utilisent le charbon comme source de production d'électricité. C'est le cas notamment en Chine, où le charbon est toujours très 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 utilisé. La Chine a en plus, on le sait, énormément investi en nucléaire, énormément investi en renouvelable, ce qui fait que finalement le pétrole ne représente, et ses produits, et ses dérivés ne représentent que 20% de la production d'énergie en Chine. Bon, certes, une grosse partie de ces 20% vient de l'extérieur, parce que la Chine consomme dans les 14-15 millions de barils par jour et produit environ 4-5 millions de barils par jour. Donc effectivement, tout le reste est importé. Importé, je veux dire, 75-80% de ce que la Chine consomme. En Indonésie, les produits pétroliers représentent environ 28% des sources d'énergie, ce qui n'est pas non plus un montant colossal. Et après, c'est un peu plus en Thaïlande, c'est beaucoup plus en Corée, Taïwan, Japon et ou en Inde, qui sont finalement assez vulnérables. Donc les pays qui finalement sont les plus vulnérables par rapport à la hausse du pétrole, c'est Inde, Pakistan, et puis c'est Taïwan, Corée du Sud et Japon, finalement. La Chine ne l'est pas tellement, l'Indonésie ne l'est pas tellement, bon, bien sûr, je vais revenir dessus, mais c'est donc Inde, Taïwan, Corée du Sud et Japon. Les pays qui sont les plus autosuffisants en énergie de la région, c'est l'Indonésie, c'est la Malaisie et c'est la Chine. Donc la Malaisie est un assez grand producteur du pétrole, on le sait, exportateur également. L'Indonésie consomme environ 2 millions de barils par jour et on produit 1 million, un peu plus d'un million. Donc il y a en gros environ 40 à 50% du pétrole indonésien qui vient de l'extérieur. Et après, tout ce qui est production énergétique et d'électricité, pardon, bien sûr, l'Indonésie comme la Chine se repose beaucoup sur le charbon et aussi sur le gaz qui sont produits localement. Et lorsque on regarde l'impact sur la croissance de la hausse du prix du pétrole, finalement, selon les différents chiffres que nous voyons dans les rapports de recherche, cet impact, il est le plus fort sur les économies du Vietnam, de la Thaïlande et Corée, Taïwan à nouveau, qui sont plutôt assez vulnérables. Et je me répète, il y a bien un moindre impact sur la Chine ou sur l'Indonésie. Alors sur l'Indonésie, encore une fois, je reviens. Je viens de le dire, il y a environ 40, un peu plus de 40% des besoins en pétrole qui sont importés. Mais en même temps, l'Indonésie est un grand exportateur du charbon, un petit exportateur du gaz et un grand exportateur de l'huile de palme. Donc dans les moments de stress sur les marchés énergétiques, comme ces différentes matières premières évoluent un peu ensemble souvent, ça permet à l'Indonésie de garder un compte courant à l'équilibre. Un très bon exemple d'une telle situation est 2022, où effectivement, malgré une hausse de pétrole, on se souvient à l'époque qui était assez forte, l'Indonésie a dégagé des excédents commerciaux, des excédents de compte courant. Deuxième point important pour l'Indonésie, et effectivement cette équation est compliquée, c'est que l'Indonésie subventionne les prix à la pompe, les prix d'essence à la pompe, des carburants, et par contre le déficit fiscal en Indonésie semble plutôt assez maîtrisé. On est en dessous des 3%, et je rappelle que l'Indonésie a cette règle presque constitutionnelle qui lui interdit d'avoir plus de 3% de déficit fiscal. Donc les comptes sont internes de l'Indonésie sont plutôt assez sains. Et là, effectivement, il y a un peu du bruit, quoique Prabowo aurait demandé au Congrès d'avoir une dérogation exceptionnelle à ces 3% si jamais on devait assister à effectivement une prolongation de la guerre et prolongation des prix de pétrole cher. Mais encore une fois, ça devrait être, si jamais c'est en cas, ça devrait être quelque chose d'exceptionnel. Bon, on se méfie toujours des exceptions en politique. Je rappelle que si on regarde les 20 dernières années, l'Indonésie a toujours respecté ces 3% de déficit fiscal, sauf les années de Covid, où effectivement pendant 2 années, ce déficit s'est creusé, mais tout de suite après, les comptes ont été rééquilibrés à nouveau. Donc on peut dire que quand même, vu ce qui se passe partout ailleurs, et j'en parle parce que le marché aujourd'hui, il est très inquiet pour les finances publiques en Indonésie, ce que je comprends pas très bien, à vrai dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres pays où il faut être davantage inquiété que sur l'Indonésie. Probablement le seul petit problème en Indonésie, c'est l'inflation, qui aujourd'hui est à 3,5%. C'est un niveau qui est sympa. Sympa parce que c'est un niveau que le marché aime en général. Je rappelle, ça permet aux chiffres d'affaires d'entreprise de croître confortablement, 5% de croissance de PIB réel en Indonésie, plus 3,5% d'inflation, ça vous fait 8-9% de progression déjà un peu automatique des revenus, ce qui est plutôt bien. Mais il ne faut pas que l'inflation effectivement dérape en Indonésie suite à ce mouvement du pétrole, parce que là, ça voudrait dire effectivement obligation d'intervention de la Banque centrale, et ça pourrait constituer un problème. Mais, vu que les prix à la pompe sont subventionnés, pour l'instant, et juste sur cette histoire un peu de pétrole plus potentiellement dérapage des comptes internes de l'Indonésie, le pessimisme du marché nous semble totalement injustifié. Après, la situation peut être un tout petit peu plus problématique dans 2 autres pays de la région, les Philippines, qui fonctionnent depuis plusieurs années avec un compte courant déficitaire, qui effectivement importent beaucoup du pétrole, des produits pétroliers, du gaz, et utilisent même le gaz comme source de production d'électricité. Donc là, effectivement, oui, c'est un problème, et d'autant plus que le déficit fiscal de l'économie philippine est assez important déjà, il est à plus de 5%. Donc il y a peu de marge de manœuvre pour, effectivement, le gouvernement à dépenser davantage. Donc sur les Philippines, à mon avis, il faut faire un peu attention. Et la Thaïlande, c'est la situation un peu mixte, parce qu'on d'une part, la Thaïlande a un excédent de compte courant, mais grâce beaucoup au tourisme. Et effectivement, si jamais le conflit devait se prolonger au Moyen-Orient, mais forcément le tourisme vers la Thaïlande serait impacté, et là, les choses pourraient devenir un peu plus problématiques, sachant que la croissance économique de la Thaïlande est déjà très faible, parce qu'on est à peine à 1%, peut-être 1,5% de croissance de PIB en termes réels, et on a une inflation qui est à zéro, donc c'est effectivement assez compliqué. Donc je dirais, si on regarde un tout petit peu, encore une fois, pour résumer, on a vraiment des vrais problèmes, c'est l'Inde, Pakistan, Taïwan, Corée, Japon. probablement les Philippines, en Asie du Sud-Est. Et puis, les pays qui en principe sont le mieux positionnés, c'est la Chine et c'est l'Indonésie. Et ici, j'ai envie un peu de dire, c'est tant mieux pour nous parce que nous avons sur ces deux pays-là des expositions assez fortes, 50% de notre portefeuille sur la Chine toujours, et environ 10%, presque 10% sur l'Indonésie. Donc voilà un petit point un peu long, désolé, sur la situation du moment.
Merci beaucoup, Wojtek, merci. Peut-être que maintenant on peut passer à la revue de la performance du portefeuille, et de manière un peu exceptionnelle, Charles, peut-être que tu peux nous parler aussi, vu qu'on est déjà le 17 mars, de la réaction du portefeuille et des marchés depuis le début de la guerre en Iran, il y a deux semaines maintenant.
Oui, bien sûr, parce que ça change, disons que l'impact a été assez important. On va commencer déjà par la performance sur le mois de février depuis le début de l'année jusqu'à fin février. On a vu d'un point de vue sectoriel la consommation discrétionnaire, les services de communication donc type Tencent par exemple qui était en baisse significative du type 7-8% de baisse depuis le début de l'année. Et un indice qui était plutôt tiré par les matières premières, par l'énergie, qui avait eu un très bon début d'année, notamment suite aux interventions américaines au Venezuela, qui avait quand même fait monter un petit peu le pétrole déjà avant le conflit au Moyen-Orient. Et par évidemment les valeurs technologiques par les valeurs technologiques. Et d'ailleurs on le retrouve ensuite d'un point de vue pays géographique avec la Chine à fin février qui était plutôt en faible baisse en dollars qui était en baisse plutôt aux alentours de 5%. Et avec notamment du coup, comme on disait, la consommation et les services de communication qui étaient très faibles. Et de l'autre côté, Taïwan, qui était déjà en hausse de 20% en dollars, la Corée du Sud qui était déjà en hausse de 40% à fin février en dollars. Donc forcément, on va dire les performances à la fois sectorielles et géographiques se recoupent à ce niveau-là. Pour nous, sur la perf à fin février, étant donné notre absence de Taïwan et de Corée, évidemment, ça a eu un impact assez puissant. Maintenant, ce qui nous a aidé à ne pas être trop distancé, ça a été la bonne tenue du Brésil, qui a bénéficié de flux positifs. Et d'un mix sectoriel aussi qui était assez intéressant et donc qui était en hausse de 15% à fin février et l'Inde qui a été assez faible aussi et dans lequel nous ne sommes pas présents. Donc ça c'était jusqu'à fin février. Maintenant, si on regarde un petit peu ces deux premières semaines de mars, là on enregistre, on est le mardi 17. On a les données jusqu'au vendredi soir. Qu'est-ce qu'on a vu pendant la phase de correction? Déjà, premièrement, on a vu une phase de correction. Clairement, les marchés ont réagi à cet incident, ont réagi avec beaucoup de volatilité et bizarrement en performance absolue. La performance absolue n'a pas été si mauvaise que ça, entre guillemets. Sur les deux semaines, bon, déjà, ça coïncide, c'est facile à regarder parce que ça coïncide avec le début du mois de mars. Donc on peut regarder ça, sur la performance du mois de mars. Et quand on regarde l'indice, a corrigé de quasiment 6% en euros, depuis le début du mois de mars. Sachant que quand même il était en hausse Il était en hausse de près de 14% jusqu'à présent. On peut quasiment parler de quelques prises de bénéfices ou d'une petite consolidation. Pour l'instant, je dirais, on peut pas vraiment parler d'une correction. On a eu une correction pendant la période, et c'est là où c'est intéressant. On a quand même eu un moment où il y a eu une correction, avec un point bas qui a été touché le 9 mars. Et un indice en euros qui avait à ce moment-là connu une baisse de 8%. Donc ça commençait à ressembler à une correction, après ça a un peu rebondi. Mais ce qui est intéressant, c'est, enfin de notre point de vue, c'est un petit peu le comportement du fonds pendant cette période de correction. Et c'est un peu rassurant parce que quelque part on a construit le fonds pour être un petit peu défensif. Et avoir on va dire un comportement qui puisse être beaucoup plus résilient, et effectivement pendant cette phase de correction ça a été prouvé. Donc le marché a corrigé de 8%. Le fonds lui a sur la même période a une correction d'un peu moins de 5. Donc un drawdown qui a été réduit significativement de quasiment 40% sur la période, ce qui est déjà assez intéressant. Mais surtout quand on revoit après la correction les allers-retours et le niveau de volatilité qu'il y a pu y avoir sur les marchés, c'est assez impressionnant. Faut avoir en tête que sur l'année passée, sur les 12 derniers mois avant le début de la guerre en Iran, la volatilité de l'indice en euros était aux alentours de 16%. Sur les 2 semaines écoulées, cette volatilité est passée de 16 à 41. Donc on a eu une explosion de la volatilité pendant la période. Wojciech le mentionnait notamment sur la Corée du Sud, avec des mouvements parfois à deux chiffres sur l'indice sur certaines journées. En revanche, le fonds, lui, il a quasiment pas bougé en réalité, en termes de volatilité. Sur l'année écoulée, on était à 14,5% de volatilité avant la guerre en Iran. Et pendant les 2 dernières semaines, on est passé de 14,5 à 18,7. En gros, ça a à peine pris 3 points de volatilité, alors que forcément, on était quand même sur des événements qui étaient assez extrêmes. Donc, ce qui nous a permis sur la période d'avoir une performance qui est légèrement supérieure, qui résiste un peu mieux. On aurait aimé qu'il résiste encore un peu plus, mais le rebond qui a suivi a été plus favorable à l'indice qu'à nous-mêmes, mais surtout avec un bêta sur la période de 0,3. Donc, ce qui nous paraît assez intéressant aussi, en tout cas ça nous a permis de dormir un peu plus tranquillement la nuit. Voilà. Okay. Ça c'était un peu pour la performance.
Merci Charles. Et du coup, en parlant de performance, qu'est-ce qui a bien fonctionné sur ce mois de février justement dans notre portefeuille?
Alors sur le mois de février, attention, parce que là on revient sûrement sur la période de mois de février et on parlera du mois de mars et des bons ou mauvais contributeurs du mois de mars pour la suite. C'est-à-dire dans les prochains podcasts trimestriels. Donc pour le mois de février, on a eu un fort rebond de la société thaïlandaise qui s'appelle Bumrungrad Hospital. Qui est certainement l'une des meilleures, mais je crois qu'on en a parlé sur les derniers podcasts, c'est certainement l'une des meilleures ou le meilleur hôpital qu'on peut trouver, ou l'une des meilleures franchises de santé qu'on peut trouver dans le monde émergent, qui avait été très largement discounté notamment sur l'année 2025, suite à une baisse du tourisme, suite à différents éléments et notamment le désintérêt des investisseurs pour la Thaïlande, et on a pu rentrer sur le titre et construire notre ligne à un bon prix et un bon niveau de valorisation. On a eu un début de normalisation de cette valorisation sur le mois de février. Et c'est là où je dis c'est vraiment sur le mois de février, parce qu'ensuite évidemment sur le mois de mars une bonne partie des touristes médicaux viennent du Moyen-Orient, et donc le titre a un peu plus souffert sur le mois de mars. Ensuite, on a eu une hausse des sociétés chinoises de services pétroliers, China Oilfield Services Limited, qui a profité de la hausse du pétrole. Je dirais la hausse modérée du pétrole jusqu'à fin février. La hausse du pétrole qu'on a vue au mois de mars n'a pas été que positive pour les services pétroliers, parce que beaucoup de ces services pétroliers ont des opérations au Moyen-Orient et ces opérations sont à l'arrêt. Donc la hausse du pétrole pour l'instant sur le mois de mars n'a pas été très très positive pour les services pétroliers. Mais sur la hausse précédente qui avait été plus modérée et sans atteinte aux actifs des actifs productifs avait été très positif donc aussi pour Cosel. Ensuite, Yum China a publié des très bons résultats trimestriels et donc annuels pour l'année 2025, meilleurs qu'attendus et très rassurants aussi dans un contexte de consommation en Chine très déprimé. Ils réussissent très largement à tirer leur épingle du jeu, donc le titre a bien fait. Et ensuite, on a eu aussi une bonne performance de Fibra Macquarie au Mexique, qui a fait l'objet d'une offre de rachat par un de leurs concurrents aux alentours de 40 pesos mexicains, alors que le titre était plutôt aux alentours de 30-32 en fin d'année dernière. Donc ça a poussé le titre vers le haut. Pour être honnête, pour nous c'est un peu décevant comme niveau d'offre, parce que on considère que le niveau de la NAV de Fibra Macquarie est plus élevé. Et plutôt aux alentours de 48-50, mais bon, déjà on va pas se plaindre, donc le titre a bien réagi et on en a profité pour alléger la position.
Et je rappelle juste, c'est un titre qu'on détient depuis le lancement de notre fonds, et outre la bonne performance récente, il a fortement contribué à la performance à travers les dividendes, hein, parce que c'est quand même un titre qui a distribué beaucoup de dividendes sur les trois dernières années.
Oui, avec un rendement dividendaire.
Dividendaire, voilà.
Voilà, pardon. Donc un rendement du dividende de quasiment 10%, effectivement.
Ok. Voilà. Et donc peut-être parmi les ce qui a moins bien marché sur le mois. Bon, vous souvenez probablement, il y a eu beaucoup d'annonces liées à l'IA et les dangers que ça a présenté pour les activités traditionnelles, en particulier les activités digitales. Et dans notre portefeuille, TME, Tencent Music, qui a pas mal souffert de ces craintes, en fait, puisqu'effectivement, on se pose la question sur l'impact de l'IA sur l'industrie du streaming musical. Pour le moment, il est très difficile de quantifier vraiment cet impact, même de dire s'il y a un vrai impact. Il va y avoir très probablement plus de contenu musical généré par l'IA, mais la qualité de ce contenu qui est bonne actuellement n'est clairement pas égale à la musique traditionnelle, hein, à la musique que je qualifierais de humaine. il est probable qu'avec le temps, la qualité de la musique IA s'améliore au fur et à mesure que les différents outils de génération de cette musique apprennent à faire un meilleur travail, mais très probablement pour cela, il va falloir que les studios ouvrent leur bibliothèque de musique, de chansons, et honnêtement, ça ne va certainement pas être gratuit, hein. Je pense qu'on peut oublier ça. Donc, autant aujourd'hui, la musique IA est quasiment gratuite, mais de qualité, on va dire qu'on peut discuter, probablement au fur et à mesure que sa qualité s'améliore, elle va devenir aussi payante. Donc, quel impact ici, encore une fois, sur les activités des entreprises comme Tencent Music ou Spotify ou autres, c'est compliqué à dire. La deuxième crainte du marché pour TME, c'est qui ici peut-être est un tout petit peu plus sérieuse, c'est en fait la concurrence de la part de Soda Music, qui est la filiale de ByteDance, hein, que j'appelle, c'est la maison mère de TikTok, de Douyin ou slash TikTok, ça dépend des endroits. Et Soda Music était très agressive depuis le lancement il y a peu. Bien évidemment, profite d'un très grand réseau de distribution de ByteDance. Et il faut dire, a eu pas mal de succès rassemblant environ 120 millions d'utilisateurs à aujourd'hui. Donc c'est pas mal. On pense que c'est probablement un niveau optimal à partir duquel ça va être quand même beaucoup plus compliqué d'ajouter de nouveaux, sachant que Soda Music s'attaque surtout aux jeunes avec un faible pouvoir d'achat. Et elle monétise essentiellement avec la publicité. Donc encore une fois, c'est un service d'écoute pour les clients qui sont un peu moins exigeants, qui sont OK avec des interruptions d'écoute avec de la publicité. Alors je rappelle que Tencent Music vise plutôt des abonnés premium. La société offre beaucoup de services VIP, comme des contacts avec les artistes, des concerts privés, les ventes des produits associés aux artistes, à leur musique, etc. Et TME, donc Tencent Music, monétise avec les abonnements. Et sa stratégie, il y a aussi de la publicité, mais qui est minoritaire dans la contribution du business total. Et la stratégie de TME, ça reste d'augmenter les revenus par abonné avec le temps, et donc d'offrir de plus en plus de services annexes, devenir une vraie une espèce de société de loisirs musicales. Je rappelle aussi que Tencent Music, c'est de loin la plus grande bibliothèque musicale en Chine. Ils ont aussi bien, ils ont toute une panoplie de morceaux internationaux, mais aussi des locaux, alors que par exemple Soda Music s'appuie beaucoup sur la musique locale, en particulier. Et puis, un petit détail quand même, il ne faut pas oublier que derrière Tencent Music, il y a bien évidemment Tencent, qui détient 60% du capital, et que Tencent n'est pas du genre à se laisser faire et à ne pas répondre si jamais il y a besoin. Donc, franchement, ils ne sont pas très inquiets. Bien évidemment, sur le court terme, le news flow, il est pas porteur pour l'action de Tencent Music, mais nous sommes plutôt assez convaincus que la société va continuer à générer une croissance confortable. Une autre victime de l'IA, ça a été l'ensemble du secteur des services informatiques, et dans notre portefeuille, la seule exposition, c'est Globant, qui est une société basée en Amérique latine, en Argentine. Et là, honnêtement, même si nous n'allons pas vous dire que nous savons exactement qu'est-ce qui va se passer dans le secteur des services informatiques, mais là, Globant a franchement dépassé toutes les exagérations à la baisse. C'est une société qui emploie quand même 30 000 personnes, qui a une expertise reconnue dans l'industrie et qui est une société de plus petite taille, flexible, agile, capable de s'adapter rapidement. Elle l'a démontré historiquement à plusieurs reprises. Cette société-là, à un moment, valait moins de 2 milliards de dollars en bourse. Moins de 2 milliards de dollars en bourse. C'est vraiment ridicule. Alors que les résultats du dernier trimestre de l'année 2025 ont été conformes aux attentes. Ils n'ont pas déçu le marché. Bon, bien sûr, les attentes ont été un peu révisées. Attention à la baisse au cours de l'année. Mais quand même, on a vu que certains sociétés informatiques ont, malgré les révisions à la baisse, ont en plus déçu le marché. Aujourd'hui, on a une valorisation qui est, selon nous, très fortement exagérée à la baisse. Et donc, nous avons décidé de renforcer Globant un tout petit peu dans, effectivement, le sillage de cette forte correction. Il y a aussi Trip.com, l'agence de voyage digital en Chine, qui également a fait l'objet d'attaques IA, puisque tout d'un coup le marché s'est dit, ah tiens, c'est la fin, je dirais que l'IA, on va pouvoir organiser tous les voyages dans tous les sens sans intermédiaire. Bon, nous, il nous semble qu'au-delà de la plateforme digitale, trip.com, c'est quand même des relations très exclusives de la société avec les hôtels, avec les compagnies aériennes, avec les transporteurs en train, en bus, etc. Et c'est surtout le service après-vente qui est très important ici, parce que je dis, on a tous voyagé et on sait très bien que souvent il y a des soucis lorsqu'on voyage. Il y a quelque chose, une réservation qui ne fonctionne pas bien, un service dans un hôtel qui n'est pas ce qu'on a vraiment acheté. Et pour ça, il vous faut quelqu'un quand même au bout de ligne pour éventuellement résoudre ces problèmes-là. Et Trip.com se distingue par la qualité de service après-vente, qui va être très difficile à répliquer par l'IA. Bon, ici, nous n'avons rien fait pour l'instant sur le titre, parce qu'il y a quand même toujours cette investigation du gouvernement chinois sur les pratiques anticoncurrentielles des Trip.com, ce que, en quelque sorte, nous aimons, parce que ça veut dire vraiment, si le gouvernement chinois s'y attaquait, c'est que Trip.com a vraiment une très forte franchise. Mais bon, de l'autre côté, on sait très bien que quand le gouvernement chinois fait ce genre de choses, c'est qu'il y aura des conséquences qui nous paraissent pas problématiques à long terme, mais sur le court terme, bon, ça peut quand même avoir un petit effet, que nous pouvons pas estimer, bien évidemment, aujourd'hui. Voilà. Et puis, sur le sentiment, voilà, sur le sentiment, et un peu quand même sur les opérations aussi, ça, oui, oui. C'est pas excuse, qu'il y aura probablement quelques ajustements que Trip.com devra faire dans son modèle économique. Et puis on a dernier point, c'est rapide, c'est Sumber Alfaria, c'est notre principale position indonésienne. Je rappelle, c'est l'opérateur de 23-24 000 magasins de proximité en Indonésie. Et qui souffre parce que l'Indonésie souffre, hein, essentiellement. Hein. C'est aussi simple que ça. On a peur que Prabowo va dérailler totalement et foutre les finances publiques de l'Indonésie totalement en l'air, alors que franchement, je veux dire, on ne sait pas sur quoi on se base pour le dire. Oui, la consommation indonésienne est faible, comme un peu partout dans le monde, et dans le monde émergent, la consommation est un peu faible. Il y a eu quelques petites annonces, mais franchement, qui ne sont pas un problème, selon nous, hein, pour les affaires de Alfaria sur le long terme. Donc, nous sommes assez confortables avec... et surtout, je pense qu'on n'a jamais vu Alfaria se traiter à 15 fois les bénéfices dans son histoire, alors qu'il y a quand même beaucoup de croissance devant nous. Je rappelle qu'un Indonésien, l'Indonésie, c'est un pays à 5 000 dollars de PIB par habitant. Donc, il y a l'expansion des magasins, plus la croissance liée au pouvoir d'achat qui monte en Indonésie. Et peut-être Charles, tu peux enchaîner avec quelques commentaires sur ce que nous avons fait dans le portefeuille pour terminer.
Oui, bien sûr. Comme mentionné un petit peu, mais ça fait un peu ça, pour résumer les différents mouvements, principaux mouvements du portefeuille. On a réduit fortement les fibres à Macquarie, donc cette société mexicaine qui nous a donné tant de dividendes depuis le lancement et qui a fait l'objet de cette offre de rachat. On a également réduit Jardine et Matheson, que j'ai oublié de mentionner dans les contributeurs positifs lors du mois. Les bons résultats du Hong Kong Land, la restructuration en cours pour une meilleure utilisation du capital et un recyclage des actifs ont permis de débloquer beaucoup de valeur dans le titre, qui a beaucoup monté sur les 12 derniers mois, et donc on arrive un petit peu à la fin, en tout cas dans nos modèles, de l'upside potentiel. Donc par discipline, on a réduit la position. Et en face, comme mentionné par Wojciech, on a renforcé les Globant, parce que une société comme Globant qui, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'on a dit, a quand même eu des résultats stables pour 2025, qui sont attendus en hausse, ou très légèrement en hausse en 2026, et a priori encore de la croissance pour la suite, et qui se traite à 7 fois les bénéfices. De notre point de vue, ça n'a aucun sens. Donc on a renforcé les Globant, et de la même façon, tous les actifs indonésiens ayant souffert pour les raisons déjà mentionnées, on continue patiemment, progressivement, de racheter des superbes franchises en Indonésie, que ce soit à travers Alfaria ou que ce soit à travers la banque Bank Central Asia (BCA), qui souffre également avec le marché. Voilà un petit peu pour les principaux mouvements du portefeuille pour le mois de février.
Très bien, mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Puis on se retrouve dans quelques semaines maintenant. On va voir un peu l'évolution du contexte international d'ici là.
Jamais déçu.
On dirait la vie d'investisseur qui n'a jamais été facile est devenue particulièrement compliquée ces derniers temps. Mais bon, merci beaucoup pour votre attention.
Merci à tous. Merci. Au revoir.